France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le 17 mai dernier, l'Assemblée nationale a franchi une étape décisive en adoptant l'article central du projet de loi sur l'aide à mourir qui institue un droit encadré à recourir à une substance létale. Mais derrière ce vote symbolique, les tensions persistent, clivages sémantiques, critères d'éligibilité stricts, exclusion des mineurs, débat éthique sur le rôle du médecin. Surtout, la question économique revient avec insistance. Alors que certains affirment que maintenir en vie des personnes très malades revient cher à la collectivité, l'euthanasie ou le suicide assisté ont-ils aussi pour vocation de faire des économies? Pour tenter de le comprendre, un invité ce soir, Frédéric Bizard, bonsoir.
Bonsoir, Quentin Lafay.
Vous êtes professeur de macroéconomie, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Vous êtes par ailleurs le président fondateur de l'Institut Santé. Vous avez écrit Les itinérants de la santé, un ouvrage qui a paru le 10 octobre dernier aux éditions Michelon. Et comme chaque mercredi, je reçois avec plaisir Julien Bisson, bonsoir.
Bonsoir, Quentin.
Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Je vais mettre maintenant aux voix l'ensemble de l'article 4. Donc c'est un scrutin public. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Votants 274, exprimés 267, majorité 134, pour 164, contre 103, l'Assemblée nationale a adopté.
C'est l'article central de la proposition de loi Falorni qui a été adopté, instaurant un droit à l'aide à mourir. Frédéric Bizard, quelle interprétation, si je puis dire, faites-vous du texte qui a été adopté par les députés il y a quelques jours?
Alors, d'abord peut-être dire deux mots sur d'où je parle, parce que je crois que sur ce sujet-là, c'est important. Moi, à titre personnel, je suis plutôt favorable à tout ce qui permet à l'individu d'augmenter sa souveraineté, sa liberté d'action sur son mode de vie, sur la façon de gérer sa vie, son corps, etc.
Donc, c'est votre opinion personnelle et
morale. Donc, c'est mon opinion personnelle. Comme le disait Rousseau, l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers, et je pense que tous les fers qu'on peut lui enlever, ou Sartre, l'homme est condamné à être libre. Je suis plutôt dans ce courant-là. Maintenant, je crois, contrairement à ce que pensent les partis politiques, que c'est pas une affaire d'opinion personnelle. Je pense pas que ça soit une affaire de conscience personnelle. La question, c'est exactement ce qu'avait soulevé Max Weber entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Est-ce qu'on est simplement dans une question de conviction? Vous savez, l'éthique de conviction, c'était selon Luther, le chrétien agit selon ses principes et s'en remet à Dieu pour les conséquences. Il ne se préoccupe pas des conséquences de ses actions. Alors quand on est dans l'éthique de responsabilité, on est préoccupé par les conséquences de son action. Donc, je pense que c'est pas une affaire de conviction, c'est une affaire d'analyse. Est-ce que cette loi est bonne pour la société? Est-ce qu'elle est juste pour la société? Et c'est là où on commence à rentrer dans une analyse qui peut être différente de celle de ses convictions.
Donc, c'est là qu'on aborde de plein pied les enjeux économiques et sociaux, et c'est de
Absolument.
Là que vous parlez.
Absolument, c'est de là dont je parle. Et je reviendrai sur votre question avant sur ces enjeux économiques pour savoir, parce que là, c'est les conditions d'accès, ce qui est
on y
évidemment,
reviendra, bien sûr.
C'est évidemment un point central. Sur l'aspect de la protection sociale, puisque là on est sur la question du droit à l'aide à mourir, on peut regarder un petit peu où en est la France, donc là je parle du contexte, sur la gestion des aléas de la vie, qui est le rôle de la protection sociale, de cet État-providence. Prenons le système de santé, qui a été excellent en matière de soins pour avoir un accès aux soins au XXe siècle. Il est dans un état de dégradation avancée où on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ait un droit à l'accès aux soins qui soit plein et entier, et encore moins un droit sur le maintien en bonne santé, puisqu'on a une politique de prévention qui est très faible. Si on regarde la façon avec laquelle on gère la vulnérabilité, le handicap, par exemple, 12 millions de Français avec un handicap, on voit bien, il y a beaucoup de vos confrères et consoeurs qui ont fait des émissions remarquables pour attirer l'attention sur la maltraitance institutionnelle, zone interdite en mars 2024, etc. Si on regarde sur la question de la dépendance, c'est-à-dire la personne âgée où on devient vraiment dépendant. On sait bien qu'il y a quand même tout est à construire, je trouve que c'est un sujet. Bon, donc, sur les aléas de la vie, avant de parler du droit de l'aide à mourir, on voit bien qu'on est dans un état de dégradation du système qui n'a pas l'air d'intéresser beaucoup le Parlement. C'est un sujet, comme vous l'avez rappelé, que sur lequel je travaille, j'ai créé un institut santé pour ça, pour essayer d'avoir une approche multidisciplinaire, une approche recherchant un consensus. Ça intéresse très peu les députés. députés. Dernier point.
Ça intéresse très peu les députés dans le cadre peut-être de cette réflexion sur l'aide à mourir. Il y a quand même eu nombre de débats sur la question hospitalière et le système de l'organisation du système de santé dans son ensemble.
Mais la réforme pour redresser le système, je peux vous dire, aujourd'hui ne colporte pas sur le... Mon dernier point, c'est sur la solvabilisation de tout ça, qui est un élément clé, parce qu'on va voir que la fin de vie coûte très cher. Vous l'avez commencé à le mentionner. Donc si on veut pas en faire un argument économique, il faut s'assurer qu'il y ait bien, quel que soit votre niveau socio-économique, un accès à cette fin de vie à peu près dans des conditions égalitaires. Eh bien, la sécurité sociale, vous ne le savez peut-être pas, mais est en état de mort cérébrale, comme dirait le président de la République. Elle n'a jamais été dans une situation... Il parlait de l'OTAN, mais c'était une image. La situation financière de la sécurité sociale n'a jamais été autant à risque. 150 milliards de dettes à fin 2024, 15 milliards, en tout cas juste pour l'assurance maladie, mais si on prend toute la sécurité sociale, c'est près de 24 milliards, chaque année de déficit jusqu'à 2028, qui est la trajectoire budgétaire la dernière connue. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de maîtrise aujourd'hui du fait. Et on ne peut pas financer à crédit la sécurité sociale. Donc il va falloir prendre, et c'est pas avec la TVA sociale qu'on va régler le problème.
Voilà le contexte posé, question de Julien Bisson.
Oui, sur la sécurité sociale, justement, la dernière année de vie d'un Français coûte en moyenne 31 000 euros à la sécurité sociale. Est-ce que ça a été un angle mort, voire un tabou dans ce débat sur le droit de l'aide à mourir?
Ben en tout cas, ça n'a pas été un sujet qui a été abordé de façon un petit peu utilitaire. Moi, vous l'avez compris, j'ai pas d'approche religieuse ou morale comme première approche. Je me fais à partir d'une analyse économique, sociale, et on verra éthique, parce que la notion éthique est importante. Donc, ça n'a pas été abordé. 31 000 euros, c'est à peu près le coût de la dernière année de vie. Et si on regarde juste le coût de la fin de vie, qui est vraiment, qui sont les dernières semaines, on est à peu près à la moitié de cette somme-là, mais avec 10% de reste à charge. Mais pour le moment, tout entre guillemets, on est dans des conditions acceptables sur un plan social et sociétal, c'est-à-dire qu'on a une solvabilisation, encore une fois, par la sécurité sociale. C'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, globalement, si vous devez aller à l'hôpital lors de vos derniers mois, ce qui arrive très souvent, vous y allez et vous êtes pris en compte. Mais rien n'est moins sûr si on ne redresse pas et si on ne montre pas une capacité sur le plan politique de redresser et notre système de santé, on va parler des soins palliatifs et surtout la solvabilisation de ça. Donc on voit bien, et personne n'a envie de laisser une dette lors de ces derniers jours, d'ailleurs qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Donc on voit bien que la question de la solvabilisation de ces derniers jours devrait intéresser en amont le Parlement, à mon avis en tout cas, plutôt que de reporter à plus tard cette question-là.
Pour bien comprendre ce que vous nous expliquez là, Frédéric Bizard, et pour même en mettre les mains dans le cambouis, est-ce que vous imaginez un monde possible où il y aura un jour une pression sur les personnes mourantes, sur les personnes en fin de vie ou sur les personnes extrêmement âgées et gravement malades pour, j'allais dire, être accompagnées plus rapidement que prévu vers la fin de vie parce que ces personnes-là coûtent cher?
D'abord, qui est le plus avec un état de santé le plus dégradé dans ces dernières années d'existence? Qui a une espérance de vie en bonne santé le plus faible, une espérance de vie tout simplement le plus faible? Je rappelle qu'entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches, en France, je ne parle pas d'un pays... Vous savez, la différence d'espérance de vie, c'est 13 ans. D'accord. Donc il faut savoir que les premiers concernés par un état très dégradé, parce que lorsque vous avez une dépendance des pathogènes, c'est souvent des polypathologies, et donc c'est souvent, quand vous regardez, il y a un gradient social là-dedans. Bien sûr que tout peut arriver à tout le monde, mais vous avez un vrai gradient social dans la dégradation de l'état de santé.
Donc une vraie inégalité.
Donc une vraie inégalité avant vos derniers jours de vie. Donc les premiers concernés vont être quand même ceux qui sont dans une population, dans un milieu populaire, et plutôt une classe socio-économique plutôt défavorisée.
Pardonnez-moi, les premiers concernés par quoi? Par la pression justement à aller vers cette
dégradé, par un état dégradé de fin de vie qui fait que forcément... vous avez plutôt moins de moyens pour avoir une fin de vie qui vous garantisse que vous ayez bien une fin de vie digne avant de penser à piqûre létale, l'injection létale.
Oui, Frédéric Bizard, vous parliez justement de la question des soins palliatifs. En quoi la bonne tenue des soins palliatifs en France ou leur mauvaise tenue rentre pour vous dans ce débat sur le droit à l'aide à mourir?
Question très importante, parce que je rappelle que d'abord, la gestion de la fin de vie et de pouvoir aller jusqu'à l'accompagnement jusqu'à la mort existe par la loi Leonetti-Claeys de 2016, c'est-à-dire que vous avez, par une sédation profonde et continue, sous réserve que vous ayez un accompagnement en soins palliatifs, la possibilité d'accompagner les malades sans qu'il y ait aucune souffrance. Bon, à partir du moment où vous n'avez qu'une une personne éligible sur deux qui a accès à ces services-là de santé, ça pose problème. Est-ce que la loi qui est proposée avec un versant sur les soins palliatifs va changer quelque chose ? Quand vous connaissez ces sujets-là, ce qui est mon cas, le projet de loi sur les soins palliatifs est un prétexte, c'est on meuble pour dire qu'on a réglé. Quel est le problème du soin palliatif ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à développer les soins palliatifs ? C'est pas une question de ressources financières. Je rappelle qu'on a augmenté de 45% sur 5 ans. C'est à peu près plus 8 à 9%. On a à peu près 1,5 milliard de dépenses pour les soins palliatifs. Or, malgré cette augmentation forte de ressources, on voit qu'on est passé d'une capacité de 5600 lits en 2019 à 5500 lits en 2000.
Ça a décru tout de même.
En 2000, ça a décru tout de même. Donc on voit bien que c'est la désorganisation du système de santé, du système hospitalier. On pourrait en faire une émission et de savoir comment on fait. Donc, quand je regarde le projet de loi qui a été voté la semaine dernière, très honnêtement, on va dire que je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais ce projet de loi n'a pas un seul article où vous vous dites « Ah, là, on va peut-être changer la donne et faire en sorte qu'on ait demain plus de soins palliatifs ». Premier article, pour vous donner, qui est souvent important, le premier article, on propose de passer de la dénomination de soins palliatifs à soins palliatifs et accompagnement. Le troisième article, on vous propose de créer la société du bien vieillir et de l'autonomie. Exactement ce qui a été fait il y a un an dans la loi pour la dépendance, qui n'a strictement rien changé, qui était là pour meubler les choses. Justement, à défaut de volontarisme politique pour changer les choses. Quatrième article, j'en resterai là, c'est de proposer de dire l'exécution sera du domaine de l'ARS, de l'administration.
L'Agence régionale de santé.
Donc, comme si la haute administration de l'ARS, qui était hautement respectable, peut faire quoi que ce soit pour développer les soins palliatifs. Et c'est quelque chose d'important, puisque à défaut de soins palliatifs, que vont faire les 200 000 personnes qui sont en souffrance et qui devraient avoir accès aux soins palliatifs.
Juste sur l'ARS, c'est quand même la responsable dans une région donnée de l'organisation territoriale des soins, donc c'est peut-être elle aussi qui peut mieux organiser les soins palliatifs, Julien Bisson.
Oui, moi j'allais vous poser, essayer de bien vous comprendre. Est-ce que ça veut dire que pour vous, dans ces conditions, il est impossible de faire un choix éclairé et en conscience pour avoir accès à cette aide à mourir ? Que la question est totalement biaisée dans ces conditions ?
Non, il y a deux choses. Il y a d'abord la question de contexte. N'oubliez pas, c'est Talleyrand. Talleyrand, il a démarré sa vie professionnelle comme prêtre. Il l'a fini sans aucune éthique, mais comme un génie politique. Il a fait 18 gouvernements. Il a sauvé la France au Congrès de Vienne. Et ça serait pas la même France s'il n'avait pas été là. Et il disait que la politique n'est pas une affaire de conviction, mais une affaire de circonstances. Ce qui m'intéresse là, c'est de savoir si les circonstances... Je vous ai dit que personnellement, j'étais plutôt favorable à cette chose-là. Mais est-ce que les circonstances françaises au regard de ce phénomène-là permettent de se dire qu'on va avoir une loi qui va pouvoir être appliquée dans des critères d'application éthique. Et la deuxième niveau, c'est le niveau éthique. Et là, il y a un vrai sujet. Contrairement à ce que j'entends, c'est pas une loi qui recherche un équilibre parce qu'on fait un grand saut. Ça peut être un choix politique, puisqu'on va directement jusqu'à l'euthanasie. Je rappelle qu'en Suisse, on parle beaucoup du modèle suisse, mais l'euthanasie est interdite. On parle de suicide assisté. Là, on parle de l'euthanasie.
On parle de l'euthanasie, pardonnez-moi, là aussi, je me permets d'intervenir. On parle d'euthanasie uniquement pour les personnes qui, physiquement, sont dans l'incapacité de prendre même la substance létale. Vous dites très bien, mais c'est fondamental quand même. Pour les autres, c'est quand même de l'aide médicale à mourir.
Non, mais quand on a fait la question, c'est pour savoir si c'est éthique, il faut savoir. Ça, c'est l'impératif catégorique de Kant. Non, mais oui. Je vais vous expliquer.
Expliquez-moi.
Et de dire, c'est quoi une réforme juste ? C'est quoi une action juste ? C'est une action pour laquelle les conditions d'applicabilité sont universelles et sans contradiction. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous êtes sûr que, quelles que soient les conditions d'applicabilité, vous n'allez pas avoir de dérive. Eh bien, je vous demande, Quentin Laffaye, si on a créé un délit qui est le délit d'entrave à au droit à mourir. On avait hésité entre le délit d'entrave au droit à mourir ou le délit de provoquer ce droit à mourir, qui, vous savez, pour avoir l'héritage de votre grand-mère ou de choses, on peut peut-être essayer de favoriser les choses. Bon, on a choisi le délit d'entrave, mais est-ce que c'est pour justement essayer d'encadrer, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de critère d'applicabilité sûr. Mais si, et je le souhaite à personne, je prends un cas d'école. Votre mère vous dit qu'elle a envie d'arrêter de vivre parce qu'elle souffre, parce qu'elle en a marre. Mmh. Est-ce que vous allez lui dire, écoute, il y a encore de beaux jours, il y a encore quelques jours, il faut profiter de chaque jour. Je reviendrai parce que c'est ça l'approche humaniste de la chose. Elle dit au responsable de l'hôpital que vous souhaitez qu'elle ne prenne pas. Eh bien, on va vous dire, monsieur Laffaye, c'est sympathique, mais vous savez qu'il y a une loi qui vous dit que ça, c'est un délit d'entrave. entrave et que donc vous laissez votre maire décider que si ça vous dérange pas, vous voyez dans quelle société est-ce que l'on tombe.
Absolument.
Et ça, c'est un risque.
Donc, je voudrais juste qu'on ait intégré ma mère à ce débat, mais très bien. Julien,
c'était un cas d'école.
Est-ce que justement les critères cumulatifs qui sont aujourd'hui édictés dans le projet de loi, notamment être majeur, résider en France, mais surtout souffrir d'une maladie incurable, mettant en jeu le pronostic vital, être en phase avancée ou terminale, est-ce que ce ne sont pas justement des garde-fous qui peuvent empêcher les dérives que vous évoquez?
Encore une fois, j'aimerais que ça le soit. Il y a 5 critères, et ça a été le vote d'aujourd'hui, il y a 5 critères, c'est un moindre mal. Hein,
je les rappelle, par transparence, les 5 critères sont les suivants: être majeur, résider en France, souffrir d'une maladie incurable mettant en jeu le pronostic vital, être en phase avancée ou terminale, endurer enfin une souffrance réfractaire au traitement, et voilà le véritable enfin, pouvoir exprimer une volonté libre et éclairée. Je vous redonne la parole, Frédéric Bizard.
D'abord, la question de phase avancée est évidemment relativement floue. La question,
elle a été critiquée, absolument.
Elle est floue. Enfin, encore une fois, je cherche pas. Je cherche des choses pour que cette loi soit applicable dans les meilleures conditions. J'aimerais qu'elle puisse l'être. Mais je lis tout ce qui se fait et ça renforce plutôt mon analyse de départ. La notion d'être libre et éclairé, d'avoir un consentement libre et éclairé est aussi quelque chose de contestable. Mais le sujet n'est pas tellement là. Encore une fois, je vous dis, les critères d'applicabilité ne peuvent pas échapper aux dérives. Et ça, ça suffit pour dire qu'il n'y a pas de loi éthique. Vous savez, c'est la meilleure... cet impératif catégorique de Kant qui justifie... Vous l'appliquez très bien, par exemple, à la PMA et la GPA. D'accord ? La PMA, qui est de... Enfin, 100 fois oui à la PMA, c'est-à-dire la liberté d'une femme de choisir, quel que soit le choix de son noyau familial, quelles que soient ses préférences sexuelles, de pouvoir avoir donné naissance à un enfant... Il n'y a aucune dérive possible à ça. La GPA, vous dites, la liberté de n'importe quelle femme de pouvoir porter sur le truc, eh bien là, vous avez la limite de ce qui est éthique. Pourquoi ? Parce que vous allez la dérive vers la marchandisation du corps. Et vous ne pouvez pas, et c'est ce qui se passe actuellement, où vous avez une dérive dans les pays comme l'Ukraine, comme aux États-Unis, vous avez une marchandisation du corps parce que c'est ceux qui ont besoin de cet argent-là qui vont le faire, non pas parce qu'ils souhaitent avoir cette liberté de le faire, mais parce qu'ils en ont un besoin. Et donc la dérive, parce que le tout est dans, est dans chaque partie, et la partie est dans le tout, comme vous le savez, c'est que tout est lié. C'est qu'à partir du moment où vous avez un risque que des gens qui ne veulent pas que ça porte préjudice sur leur entourage, de leur dire, vont évidemment être les premiers concernés, qu'il va y avoir une pression sociale ou une pression individuelle pour choisir ce mode-là. Je voudrais qu'on dise un mot sur la notion d'humanisme.
Je le note. Je reviens juste un instant, Frédéric Bizard, sur ce que nous permettent d'apprendre et de comprendre les cas étrangers. Je pense notamment à la Belgique, à la Suisse, à ce qui se passe au Canada. Là aussi, d'un point de vue comparatif, si on prend le cas canadien, la Fondapol, qui a établi un rapport sur les conséquences économiques et sociales de la fin de vie, tire des enseignements plutôt dramatiques de ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et nous relater de ce cas canadien ?
C'est la bonne comparaison. Hein. Comparaison n'est pas raison, mais le Canada, c'est le plus proche, parce que d'abord, c'est un pays comparable en termes de population, de niveau de développement. Le Canada avait, en 2016, voté à peu près la même loi qu'on est en train de voter, avec vraiment des critères des conditions d'application qui est très proche, quasiment identique. Le Canada est un pays comme la France, qui a un niveau d'endettement élevé, 110% de dette, une faible croissance, et qui a de gros problèmes sur le plan de ses comptes publics. Le Canada a fait voter, en 2024, une loi qui, en gros, généralise les conditions d'attribution à toute personne souffrant de santé, de troubles mentaux. D'accord ? Et avant ça, le gouvernement canadien avait fait faire une étude qui est parue, en tout cas, qui a été publiée au début d'année, là, dans l'Omega, Journal of Death and Dying, sur les économies possibles d'étendre cet accès à mourir. Donc, et cette étude a montré, il y a à peu près 4,5% à peu près des décès, hein, c'est 15 000, je crois, décès en 2023 dans le dernier rapport qui le fait.
Je précise juste, pardonnez-moi, que les échantillons de cette étude sont relativement faibles. Cela ne signifie pas qu'ils ne disent rien, mais c'est important de le préciser.
Oui, mais c'est très bien, mais très bien. Mais c'est sur la réflexion qui est de là. Donc, décide que finalement, cette étude montre qu'il y a à peu près 40 milliards par an d'euros d'économies à faire d'ici à 2047, si on ouvre jusqu'à 120 000 personnes selon un scénario. Le point, c'est que peu importe les chiffres, Quentin l'a fait. La question, c'est qu'on voit bien, je vous parle des dérives. Non, parce que vous avez l'air de dire, non, mais c'est, faut pas croire que parce que c'est cadré, et vous voyez bien qu'il y a déjà des pressions, c'est que les pressions économiques, c'est les pires des choses, d'être pas capable d'avoir une gestion correcte de sa protection sociale pour entraîner les gens. Je pense que c'est eux. Mais c'est ce qui arrive au Canada aujourd'hui. Vous voyez? Donc, le Canada, c'est le parfait exemple du risque pour la France, et j'ai pas l'impression qu'on soit dans une dynamique de maîtriser les dépenses de santé par la transformation des systèmes dans le sens de mieux protéger les gens, mais on a des solutions si ça intéresse le gouvernement. Mais bien sûr que la France est très exposée par rapport à ça.
Oui, William. Julien Bisson.
Oui, non, on a parlé du Canada. Chez d'autres pays européens, chez nos voisins, par exemple en Belgique ou en Suisse, les statistiques montrent que l'aide à mourir reste majoritairement demandée par des populations un peu plus urbaines, un peu plus aisées, un peu plus diplômées que la moyenne. Est-ce que cela vous rassure ou est-ce que ça signifie qu'il y a des leçons à tirer de ces cas-là ?
Alors, ça aussi, c'est assez discuté. Si on discute de vouloir choisir le moment de sa mort et de pouvoir, ce qui coûte cher, hein, je sais pas si vous le savez, le suicide assisté, par exemple, c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est une trentaine de milliers de francs suisses, si on le prend en Suisse, on a... Bon, donc, très bien, qu'on puisse laisser cette liberté à ceux qui peuvent se le permettre de le faire. Le problème, encore une fois, c'est toutes les dérives qui risquent à ça. Moi, j'ai évidemment moins de difficultés avec le suicide assisté qu'avec l'euthanasie. Et qu'encore une fois, je suis le premier à souhaiter choisir ma mort. Mais c'est pas mon cas qui s'intéresse. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'à l'échelle collective, ce système-là entraîne plus de dérives que de satisfaction de quelques personnes qui souhaitent, parce qu'on parle pas quand même de milliers de personnes qui le font. Mais par exemple, Charles Bietri va en Suisse parce qu'il souffre de la maladie de Charcot et il souhaite. Donc ça, c'est un exemple qui est... La question, c'est qu'encore une fois, on est obligé, lorsqu'on légifère, encore une fois, d'être plutôt dans une éthique de responsabilité qu'une éthique de conviction. Et j'ai beau essayer de tourner dans tous les sens, et je m'étonne, les chers camarades d'LFI de choses, je suis quand même étonné qu'ils sont des gens qui vont massivement voter pour cette loi-là, qui est une loi libérale.
Alors c'est pas
et moi-même, je suis libre. Non mais attendez, c'est une loi très profondément libérale, d'inspiration libérale. Moi, je suis un social-libéral qui s'assume. Mais je suis toujours étonné par ce libéralisme à périmètre variable, avec deux poids, deux mesures. Lorsqu'on commence à dire, il serait bien que les gens puissent choisir le moment de leur départ à la retraite, par exemple, qu'on arrête d'avoir, que l'État fixe l'âge. Non, surtout pas, c'est à l'État de le faire, il faut que tout le monde ait la même. Lorsqu'on dit, ça serait peut-être bien que des gens, et pas que les riches, puissent avoir le choix de pouvoir mettre des économies et d'avoir un peu de capitalisation, non, ça c'est un truc de libre. Oui, donc il y a une incohérence intellectuelle dans beaucoup de camarades de gauche et beaucoup d'extrême gauche qui est quand même frappante. Parce que si on croit qu'on est dans des conditions d'égalité, d'expression d'une loi qui va jusqu'à surtout sortir l'État, les préférences individuelles, les préférences collectives du choix de sa mort, évidemment qu'on se trompe. Et plus ça va, si on ne réforme pas le système de protection sociale, plus on va générer des inégalités qui vont être des inégalités face au choix d'une mort provoquée ou d'une mort naturelle.
Je me permets d'intervenir parce qu'il nous reste peu de temps avant la fin de cette séquence, Frédéric Bizard. Justement, si je reviens un instant sur les soins palliatifs, vous nous disiez bien que ce n'était pas un problème financier, pas non plus dans le fond un problème de compétences et de ressources humaines, mais un problème d'organisation presque territoriale des soins, d'organisation des soins en général. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour permettre de les développer bien plus efficacement sur le territoire français ?
Il faut faire ce qu'il faut faire pour tout le système de santé, c'est-à-dire le repenser d'abord pour le débureaucratiser, le lui donner une capacité, une gouvernance opérationnelle qui soit dans les mains des acteurs, avec évidemment un contrôle a posteriori de l'État. Il faut revoir complètement la gouvernance pour que ceux qui savent, parce que vous avez parlé des agences régionales de santé, vous vous dites mais ils vont faire, mais l'agence régionale de santé n'a ni la connaissance du territoire ni la connaissance professionnelle de médicale de la chose. Donc il faut redonner du pouvoir aux acteurs locaux et il faut avoir une vision vision à long terme de ce qui n'est pas le cas parce qu'on a une gestion comptable des choses. Donc on a aujourd'hui tout centralisé et donné tout pouvoir justement à l'administration. C'était une volonté politique. Hein. Sarkozy disait, je veux voir qu'une tête qui dépasse, c'est l'administratif. Je veux plus voir. Il faut tout démédicaliser. Il faut que tous ceux qui savent viennent parce que ça coûte trop cher.
C'est la création des directeurs d'hôpitaux.
Voilà. Donc il faut revoir cette organisation et territoriale et la gouvernance. Mais on pourrait passer une émission là-dessus. Moi, je vois juste, j'ai parlé de la contradiction quand même de ceux qui sont très anti-libérales, mais qui sont pour qu'il y ait aucun frein à l'accès à l'aide à mourir. Et aussi beaucoup que je vois juste très volontaristes sur cette loi-là et qui se disent avec un ADN profondément humaniste. Il faut regarder quand même ce que c'est que si vous prenez, j'ai regardé un petit peu, et qu'on a tous lu un peu les essais de Montaigne, et quand Montaigne, c'est un des thèmes de prédilection, sur le bien vieillir, c'est quoi l'approche humaniste par rapport au vieillissement et par rapport à la mort? C'est justement d'apprendre à attendre la mort naturelle sans la précipiter. C'est philosopher, non mais c'est quand même intéressant, parce que c'est ça, l'approche humaniste, c'est que philosopher, c'est apprendre à mourir. En fait, il faut tous qu'on apprenne qu'en fait nous sommes des êtres mortels et que nous allons mourir un jour. Mais prenons le temps. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Chaque jour qui passe va vers la mort. Le jour de la mort arrive. Mais soyons patients. Ne précipitons pas tant les choses que ça. C'est l'approche humaniste. Je le dis juste pour certains courants de pensée qui ont l'air de trouver que c'est bien si on précipite une partie de la population vers la mort.
En tout cas, nous relirons Montaigne. Merci beaucoup, Frédéric Bizard. Merci, vous êtes professeur de macroéconomie, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Je me tourne vers vous, Julien. Qu'est-ce que l'on trouve rapidement dans le 1 cette semaine?
Eh bien, on passe de la fin de vie au début de vie. Santé mentale, comment vont les parents? De la dépression périnatale au burn-out parental. Eh bien, on s'intéresse à cette question de santé mentale.
Nous lirons donc Montaigne et le 1. Merci à vous deux d'être présents, d'avoir participé plutôt à Question du soir ce soir.